Oui, en effet, c'est aussi ça la richesse de notre collectif, c'est que nous avons cette ligne commune qui consiste à réfléchir au fond et à la manière de travailler dans cette matière, mais après avec des manières très différentes de les mettre en pratique. On a par exemple parmi nous Sylvie Blanchon qui est à Yverdon et qui, elle, vient de terminer un récit collectif de tout un village, qui est son village en l'occurrence. Et ça, c'est une particularité puisque c'est un travail qui se fait de manière très différente que quand on rencontre une seule personne. Et puis, bon, il y a d'autres exemples. Parfois, des personnes travaillent plutôt avec des personnes âgées, d'autres avec des gens plus jeunes. Il y a aussi des projets plus publics, puisqu'on a parlé des éditions très, très confidentielles, hein, de 1 à 10 exemplaires. Et puis, il y a parfois des publications qui sont faites dans les maisons d'édition traditionnelles.
Et Marie-Joseph Varin, peut-être, quelles sont les qualités qu'on devrait avoir pour faire ce genre d'exercice, si on peut dire?
Je pense que la qualité première, c'est déjà d'aller à la rencontre des autres, de pouvoir les écouter. Hein. Une grande partie du travail, c'est vraiment d'entendre ce que les gens ont envie de raconter. Après, il y a des qualités aussi pour pouvoir rédiger le texte, pour pouvoir sentir les choses. Et puis ça dans la relation, hein, d'après les questions qu'on va poser. Et ça, je pense que ça nécessite quand même un bon regard sur son propre parcours, sur soi-même, sur son propre cheminement, pour pouvoir aussi interférer au minimum possible dans l'histoire de l'autre et simplement pouvoir l'accueillir.
Alors justement, il y a des entretiens qui sont enregistrés et manuscrits, mais j'imagine il y a plusieurs entretiens parce que le premier, je pense qu'on doit un petit peu poser le décor et puis il faut peut-être se rencontrer deux ou trois fois avec la personne avant qu'elle puisse réellement déposer ce qu'elle a envie de dire, non ?
Alors c'est une relation qui se construit, hein, comme toutes les autres relations, donc effectivement, c'est au fur et à mesure des entretiens qu'il y a parfois certaines choses qui peuvent sortir ou qui sont dans une relation de confiance et de bienveillance. C'est vrai qu'un récit sur toute une vie, hein, qui recoupe toute une vie, ça peut prendre 5-6 rencontres de façon un petit peu générale. Après, il y a toujours des exceptions. Et c'est vraiment au fur et à mesure de ces rencontres qu'il y a un partage, il y a des questionnements. Ce que j'entends me questionne aussi. Donc, la fois d'après, on revient un petit peu là-dessus. Donc, c'est quelque chose qui bouge, qui est très vivant, finalement. Et à la fin de ces rencontres, il faut aussi savoir boucler la boucle, hein, parce qu'il y a un lien qui se crée aussi. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour terminer en beauté et de façon très, très douce, quoi.
Est-ce qu'il y a certaines personnes qui cherchent, parfois, on le remarque, à embellir peut-être un peu la vérité, à fantasmer leur vie? Est-ce qu'on doit un petit peu, des fois, les remettre sur le droit chemin en quelque part? Est-ce qu'on cherche la vérité dans ce genre d'exercice, Florence?
Mais je crois que le fait, justement, comme vient de le dire Marie-Jo, d'avoir des rencontres successives, fait que c'est comme une patine. C'est-à-dire que si quelqu'un raconte quelque chose qui va au-delà de ce qui serait la réalité, ou de ce qui serait sa vérité, ça va être rediscuté, ça va reprendre place, parce que tout ça, il y a aussi tout un travail qui se fait de manière très intérieure entre les rencontres. Et au fond, l'objectif, c'est pas de raconter à quel point nous sommes des superman ou des superwoman, mais c'est de parler de ce que nous sommes vraiment au plus profond de nous-mêmes. Et je crois qu'au fond, la vérité ou cette réalité-là, elle vient s'inscrire dans la démarche même du récit, sans qu'on ait besoin de la forcer.
Une anecdote chacune, une rencontre, un moment d'une rencontre qui vous a particulièrement marqué. Marie-Jo, peut-être pour commencer.
Moi, ce petit moment-là est connecté aussi au souvenir, hein, dont on parle maintenant, la vérité. C'est un monsieur finalement qui me disait, mais je me rends compte qu'on vit avec des souvenirs qu'on construit. On entend des choses, les parents nous racontent des choses, et puis finalement, on ne sait pas si c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, parce que nous, on était trop petits pour s'en souvenir. Et à partir de ça, de ce qu'on m'a raconté, c'est un élément qui s'inscrit dans mon histoire, et je me construis à partir de ça, et sur des choses qui peuvent être, finalement, qui se sont peut-être passées différemment. Donc je trouvais intéressant ce lien avec le souvenir, et comment on se construit peut-être sur des choses qui se sont passés différemment, mais qu'on a intégré d'une autre façon.
Et vous, Florence, une rencontre, un souvenir?
Alors peut-être la première chose que j'ai envie de dire, c'est que ce qui est récurrent et qui revient à chaque rencontre, c'est des personnes qui viennent en disant « ma vie n'est pas très intéressante ».
Mais...
Et ça, c'est très, très, très courant. Et en fait, leur vie est toujours intéressante, puisque chaque vie a des éléments qui sont intéressants. Et puis, autre chose qui me vient quand vous me posez cette question-là, c'est sur un projet où j'ai travaillé avec des migrantes, une femme qui racontait son premier accouchement en Suisse, au moment où elle était arrivée depuis relativement peu de temps dans notre pays, et qu'elle ne parlait pas du tout la langue. Et on peut imaginer ce que ça représente, simplement un premier accouchement, et un premier accouchement sans parler un seul mot de la langue qui est parlée autour de soi. Et c'est un moment qui a été extrêmement intime, extrêmement puissant aussi dans l'échange qui a pu avoir lieu, parce que de confier ce genre de choses, c'est pas anodin du tout. Et puis en même temps, fait prendre conscience de l'ampleur que peut prendre le fait de simplement pouvoir le déposer quelque part, et puis ensuite continuer sa vie.
Il y a quelque chose de magnifique dans tout ce que vous dites là, c'est qu'il n'y a aucune vie qui est insignifiante. Et tout récit, quand on le met sur papier, c'est là que ça prend une certaine valeur aussi.
Ben oui, puisque c'est ça la démarche des récits de vie, c'est vraiment de proposer une petite histoire qui s'inscrit dans la grande et qui raconte quelque chose de cette histoire officielle qu'on connaît. Et puis qui finalement, alors évidemment, on trouve des points communs, on trouve des choses qui sont communes entre les différents récits qu'on peut entendre, mais à chaque fois, c'est une autre sensibilité, c'est une autre manière de s'exprimer. Je ne sais pas si Marie-Jo, tu as envie de rajouter quelque chose là-dessus.
Et puis je pense aussi que le récit se construit, comme ça se construit dans la rencontre, un récit avec une recueilleuse ou un récit avec une autre recueilleuse, il y aura aussi des différences. Et quelque part, je ne sais pas si on peut dire qu'on se choisit quand on fait le recueil entre celui qui raconte et celle qui recueille le récit, parce qu'il faut qu'il se passe quelque chose.
Alors des rencontres, il va y en avoir tout plein, puisque le collectif fête ses 2 ans en proposant une série de conférences. La première, elle a lieu demain à Seignelay-Gier, rendez-vous à 19h30 au Café du Soleil. Dans la région, vendredi 9 octobre, 19h30 au Citron Masqué. Et puis le lundi 26 octobre à Neuchâtel à 18h30, dans le cadre du Lundi Démo à la salle de l'Union Commerciale, place du Coq d'Inde. Vous aurez évidemment toutes ces informations sur le blog de Format à 3. Florence Huguet, Marie-Joseph Varin, vous remercie infiniment d'être venu ce matin chez nous.
Merci.
Et puis, on espère qu'on aura donné envie à ceux qui hésitent encore, peut-être, à pousser votre porte, à venir raconter leur vie. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci bien.